CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonsoir tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. À qui le tour du rock de l'info des cadeaux? On est ensemble jusqu'à 19h. Tout à l'heure à 17h30, nous vous proposerons de faire le tour du festival Rootserg qui va se dérouler à Sauveterre de Rouergue les 19 et 20 juillet prochains. À 18h, ce sera Afrique, mon Afrique. Entre 18h30 et 19h, comme d'hab, on vous fera gagner des cadeaux. Et d'ici là, comme chaque jeudi maintenant, c'est le rendez-vous politique avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi.
Merci d'être là.
Bonjour Aurélien.
Pour accueillir, bien l'invité du jour, Jacques Moignard. Jacques Moignard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jacques Moignard et bienvenue sur CFM. Vous êtes député socialiste de Tarn-et-Garonne, deuxième circonscription. Vous êtes également maire de Montech et vous siégez à l'Assemblée nationale au sein du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Une première question concernant votre intervention à l'attention d'Arnaud Montebourg sur l'avenir de l'industrie dans notre pays, en particulier dans le département de Tarn-et-Garonne. Y a-t-il des raisons, Jacques Moignard, d'être inquiet pour notre département?
Assurément qu'il y a des raisons d'être inquiet. Comme d'ailleurs on est inquiet au point de vue national, voire européen. J'ai voulu interpeller le ministre Montebourg la semaine dernière au sujet des activités qui concernent typiquement les petites et moyennes entreprises tarn-et-garonnaises. Avec pour exemple, à la clé, la situation de Rio Tinto Alcan à Castelsarrasin et également Hermès Metal à Escatalens. Donc la question était relativement simple et j'allais dire malheureusement un peu coutumière, c'est-à-dire c'était de savoir dans un contexte de reprise d'entreprise par une société, quelle était finalement la valeur de ces engagements, de ces reprises, de ces discussions, telles que pouvaient les chapeauter ou du moins les superviser le gouvernement et le ministre en question, M. Montebourg. Pour ce qui concerne cette entreprise qui est Rio Tinto, Alcan, en effet, c'est une filière de Saint-Jean-de-Maurienne, de Rio Tinto, donc, qui est une production d'aluminium, une très haute technicité qui se fait à Castelsarrasin, c'est du fil, ils produisent du fil d'aluminium ou d'alumine, je ne connais pas très bien la technicité, mais en fait c'est d'une très haute qualité et donc pour des motifs de coût d'énergie et des motifs de regroupement de structures, donc Saint-Jean-de-Maurienne et ici Castelsarrasin, la société Rio Tinto envisagerait ou envisageait tout du moins jusqu'à présent le fait de se restructurer comme on dit maintenant, de se recentrer sur des activités purement nationales, au sens peut-être au Saint-Jean-de-Maurienne, mais peut-être, j'allais dire pire, malheureusement pire, au sens européen, donc par un repliement peut-être sur d'autres structures.
Il vous a répondu, Arnaud Montebourg?
Arnaud Montebourg a répondu très précisément, puisque c'est un dossier qu'il suit depuis de longs mois, d'une part. En plus, c'est un dossier qui suit un cours favorable, c'est-à-dire qu'il y a repreneur tangible, repreneur sérieux, si on peut dire comme cela, par le biais effectivement d'une entreprise, bon on peut pas trop rentrer les détails encore, ce sont des négociations d'une entreprise familiale allemande, ce qui fait que la production quand même de l'aluminium, qui est une découverte de la France, il faut le savoir, serait donc comme cela maintenue sur les sites Saint-Jean-de-Maurienne et Castelsarrasin par une structure européenne.
Alors aujourd'hui, une grande conférence sociale s'est ouverte, hein, répartie en 6 tables rondes thématiques. Les représentants du gouvernement et du patronat, des syndicats, vont élaborer le calendrier social des prochains mois. Une conférence, Monsieur Moignard, pourquoi faire?
Alors c'est la deuxième. Il y en a eu une en juillet dernier. Il y a celle-ci qui s'ouvre. Ça fait partie d'une programmation qui est prévue, qui réouvre les débats entre les partenaires sociaux, ce qui n'avait pas existé depuis longtemps, du moins sous cette forme-là. Alors certes, dans un premier temps, ce sont des effets de manche, peut-être des effets d'annonce, mais quand même, et concrètement, les commissions en témoignent pour cet après-midi déjà, et les jours qui suivent, ce sont quand même des travaux relativement fins et précis pour mettre à jour et à plat, de façon tout à fait partenariale avec les entités sociales, pour mettre à jour donc les dossiers d'actualité, et Dieu sait qu'il n'en manque pas, à commencer par celui des retraites, pour ne parler que de celui-ci, et il y en a d'autres.
Merci pour la transition, les retraites justement, on y vient, la réforme des retraites s'est engagée le 11 juin dernier avec la publication du rapport Moreau par la Commission pour l'avenir des retraites. Dans ce document de près de 200 pages, plusieurs pistes sont évoquées pour financer à hauteur de 7 milliards d'euros le régime général et les régimes alignés. Les auteurs de ce rapport estiment que ce premier effort doit être réalisé d'ici à 2020 sans exclure des mesures supplémentaires sur le long terme. On a envie de dire, Monsieur Moignard, encore une réforme, et pourquoi d'ailleurs les autres n'ont pas marché?
Alors, encore une réforme, bien sûr, parce qu'elle est nécessaire. On s'aperçoit au fil de l'évolution des situations dans le temps, que rien ne parvient à juguler cette inflation en matière de problématiques de retraite. Une réforme de plus, vous direz, c'est une réforme qui est dans la continuité des autres aussi. Hein, c'est-à-dire que, moi je dis toujours, un peu ancien que je suis en la matière, c'était M. Rocard, si je me souviens bien, il y a une trentaine d'années, 35 ans, qui avait déjà posé un livre blanc sur les retraites, qui, s'il avait été à l'époque déjà empreint d'attention et de mise en application, nous n'en serions peut-être parlementaires. Je n'en sais rien. Toujours est-il que la situation est complètement catastrophique et qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Ça a été fait sous l'ancien gouvernement, c'est fait à nouveau maintenant. Ce sera sûrement fait d'ici 2020 parce qu'il y aura des réajustements à opérer. Et il faut bien considérer que la population française, la masse salariale étant de moins en moins conséquente, en termes de volume par rapport au nombre de retraités, il y convient de réformer, j'allais dire à chaque instant, peut-être pas, mais à chaque moment qui est opportun, il convient de réformer. Donc c'est participation sur un mode qui est encore un mode de gestion paritaire. Là, moi, j'y mets une pointe tout à fait personnelle qui est de dire que la gestion paritaire des régimes de retraite n'est peut-être plus la meilleure des façons de faire. C'est beau de le dire, vous direz, mais encore faut-il trouver autre chose.
C'est-à-dire que vous voudriez exclure les syndicats,
par exemple ? Pas les exclure, non, mais mettre en place un système qui, certes, met en place le paritarisme syndicat-employeur, syndicat-salarié, mais aussi l'ouvre peut-être à d'autres composantes de la société.
Alors, François Hollande a rappelé les trois principes du gouvernement, hein, celui de la responsabilité, de la justice et l'importance d'un pilotage à moyen et long terme. L'allongement de la durée en fait partie, la durée de cotisation, c'est la mesure la plus juste, selon lui. Ça va faire hurler les syndicats. Vous ne craignez pas finalement de ce que la gauche remettre le peuple dans la rue.
Ah, c'est possible. Je n'en sais rien. On va voir. De toute façon, les hypothèses de travail ne sont pas dans le contexte que je situe actuellement, hein, dans ce qui nous intéresse en matière de gestion des systèmes de retraite. Le contexte ne permet pas beaucoup d'hypothèses. Et effectivement, la longueur de la durée du travail est assurément la moins douloureuse qui soit pour l'ensemble des ressortissants français.
Certains veulent faire croire que le mode de calcul des pensions est plus avantageux que pour les fonctionnaires. Est-ce votre avis, M. Moniard ?
Alors là, c'est poser le problème de façon un peu abrupte, c'est-à-dire de vouloir faire en sorte que dans notre modèle français, il y ait d'un côté les fonctionnaires, de l'autre côté les salariés du service privé. Bon, tout cela doit s'examiner. C'est vrai qu'il y a j'appelle ça des autocudences un peu compliquées lorsque l'on voit des systèmes de régime de fonctionnaires qui sont difficiles à admettre parce qu'elles sont issues, comme celles des salariés d'ailleurs du privé, d'une époque relativement lointaine qui fait que les conditions de travail n'étaient pas du tout les mêmes que celles de maintenant. Alors, il y a certes des choses à revoir en matière-là, mais il ne faut surtout pas dire ou laisser croire que les fonctionnaires sont favorisés alors que les privés ne le seraient pas. C'est pas aussi simple que cela. Mais il y a, à mon avis, de toute façon, et ça va être fait, des choses à revoir du côté des fonctionnaires.
Alors, on sent poindre dans vos déclarations, en filigrane, un changement de philosophie socialiste qui remet en cause, en question en tout cas, sur la table, le paritarisme.
Ça, c'est moi qui le dis.
C'est vous.
C'est pas le Parti Socialiste ni autre, ça c'est moi qui le dis.
Vous êtes ici en tant que député, de la majorité, mais un député socialiste qui déclare comme ça que le paritarisme devrait être revu, que l'allongement de durée de cotisation doit être mis en place très vite, ça peut vous
heurter.
Pas heurter, mais ça peut.
Ça pose une problématique qui est une problématique d'actualité. Et encore, quand je dis d'actualité, une actualité qui est malheureusement un peu ancienne. Ça doit être vu depuis un moment, tout cela. Les systèmes paritaires tels qu'ils sont issus de 1947 avaient toute leur légitimité durant une vingtaine d'années après cela, c'est certain. Mais à partir de là, il aurait fallu commencer à entreprendre des réformes qui fassent qu'on ne soit plus uniquement sur le régime paritaire. C'est mon opinion. Hein.
Oui. Pour continuer sur les régimes spéciaux des retraites, il y a quelque chose qui fait beaucoup l'actualité, c'est les 10 députés qui, dans le cadre de ce qu'ils appellent la moralisation de la vie publique, font des propositions. Et il y a d'ailleurs une de ces propositions qui est de dire charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on veut demander aux Français, eh bien, de comprendre qu'il faut réformer leurs retraites et leurs régimes spéciaux, eh bien, commençons par réformer les régimes spéciaux des députés. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Moniard, sachant que les députés, il suffit qu'ils aient 5 ans, qu'ils aient siégé pendant 5 ans pour bénéficier de 1 200 euros de retraite automatiquement.
Bon, alors, vous le découvrez sûrement comme moi. Moi, je le découvre comme vous, c'est paru hier, je crois, avant-hier. J'en ai pris connaissance ce matin, effectivement, de ce texte, cette proposition rapide sur la moralisation de la vie politique, et donc de l'appel de 10 députés, de tous bords.
De droite et de gauche, oui.
De droite, enfin, de tous bords, surtout de gauche, j'ai vu, mais enfin, bon, de tous bords.
Il y a Wauquiez.
Oui, oui, quand même, c'est pas rien.
Non,
et donc,
Et Bruno Le Maire,
monsieur. Oui, j'ai vu ça. Alors, à mon avis, il s'agit de, comme toujours, d'une bonne idée. Pourquoi pas? Mais enfin, laver plus blanc que blanc, bon, c'est facile à décréter aussi. On peut le faire, c'est une bonne base de travail. Mais enfin, de là à remettre cela en cause de but en blanc, vous savez, les systèmes perfectionnés de nos civilisations, soi-disant avancées, sont tellement perfectionnés que pour en découdre la moindre maille, il faut vraiment regarder avant qu'on défasse cette maille et qu'on puisse ne pas tout tirer ou ne pas tout démolir. Alors bon, c'est une contribution.
C'est celle de Laurent Wauquiez, hein, justement, celle sur les retraites. Et l'argument, c'est de dire, on sent que les Français n'ont plus confiance en leur politique et que c'est toujours à eux de se serrer la ceinture.
Ça, c'est autre chose.
Ils ont ce sentiment-là.
C'est autre chose. Ça vient en rajouter. Ça, le député, c'est le sale type. L'élu, c'est le sale type qui s'en met plein les poches. Je la fais simple. En gros, on dit ça. Hein,
oui, bon, vous l'entendez.
Qui fout rien, d'ailleurs, et qui s'en met plein les poches et bien heureux qu'il ait élu dans ce pays. Bon, c'est sûr qu'on est bien heureux d'être élu, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs, mais il n'empêche que le travail qui est effectué et la disposition dont nous faisons preuve pour le bien public, à 98% des cas, si ce n'est 99%, peut-être un peu plus, est nettement plus défavorable, je dirais, pour l'individu lui-même, quand il le voit bien, que pour sa situation personnelle. Ça a été surtout bien amélioré, en sens restriction, ces derniers temps.
Mais 5 années de cotisation pour...
Oui, c'est quand même un peu... C'est un peu trop, oui, peut-être. Ah. C'est un peu trop, mais comme je vous dis, ça doit se réformer.
Alors,
ça doit se réformer.
Dans le prolongement de la question de Rémi, la tribune, elle s'appelle « Élus, abolition de nos privilèges ». Et c'est le cri donc de 10 députés, vous l'avez dit. Ça va de la publication des augmentations de patrimoine, la suppression du régime de retraite à des parlementaires en contrôle des lobbies, une fiscalisation des frais de mandat parlementaire unique, publication de la réserve parlementaire. Chacun avance une mesure symbolique.
C'est énorme.
Un texte qui a fait bondir Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Vous auriez pu donc la signer, cette tribune, monsieur Monnier?
Non, pas du tout.
Vous l'auriez pas signée?
Non, je l'aurais pas signée parce que c'est énorme. Je vous dis, laver plus blanc que blanc, bien sûr, tout le monde y aspire. C'est énorme. On peut le déclarer comme cela, c'est une base de travail, pourquoi pas. Mais là, c'est un peu gros, quoi. C'est un peu gros.
Mais la volonté de la majorité, hein, de ces signataires d'aller vers plus de transparence ne satisfait pas donc Bruno Le Maire, qui en est un signataire de cette tribune. Il vous reproche notamment, que les autres députés de ne pas aller assez loin. Reproche à la majorité sur le texte qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, sur lequel vous travaillez vraisemblablement, vous n'allez pas assez loin sur cette transparence.
Oui, c'est un point de vue.
Est-ce que c'est le vôtre?
Non, parce qu'il faut savoir que ça bouscule déjà énormément les prérequis et les situations actuelles. En l'espace de quelques mois, je dis bien de quelques mois, déjà bon nombre de mesures et de dispositions ont été prises en interne au sein de l'Assemblée nationale, pour ne parler que de cela. Je vois même qu'au niveau local, moi, en tant que maire de Montech, bon, il serait très difficile, voire même très malveillant, que de camoufler, que de ne pas déclarer, que de ne pas dire ce que l'on fait, ce que l'on possède, ce que l'on a, etc. De là à tout publier, à tout faire, comme ça, à tout va, comme justement pas n'importe quel des citoyens, c'est pas une bonne chose.
Si vous permettez, Rémi, avant de marquer, nous pose une dernière question sur ce sujet réserve parlementaire. On est quand même dans le même thème, dans le même sujet. Valérie Rabault, votre collègue à l'Assemblée nationale, notre dernière invitée ici sur CFM, a mis en ligne sur son site internet l'intégralité de l'utilisation de sa réserve parlementaire. Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous allez faire la même chose?
S'il le fallait, oui, parce que ça n'a rien de secret. L'important d'une réserve parlementaire, c'est qu'elle est utilisée au cours d'une année, de 12 mois, et qu'il est important de le publier cela en fin d'exercice, c'est-à-dire une fois que toute la réserve a été attribuée à l'un, à l'autre, etc. On ne peut pas se permettre à tous les trimestres, par exemple, de dire, mais à ce moment précis de l'année, j'en suis là, parce qu'il faut savoir que les réserves parlementaires ne sont pas si énormes que ça, compte tenu des demandes que l'on a. Et malheureusement, si on pouvait satisfaire l'ensemble des demandes, nous serions, le parlementaire aurait des réserves multimillionnaires.
Pour éviter que tout le monde parle à tort ou à raison, à combien s'élève cette réserve parlementaire?
Alors pour ce qui me concerne, elle s'élève à peu près à, je sais pas, à 80 000 euros, 100 000 euros, bon, et on travaille avec ça.
Vous écoutez CFM, le rendez-vous politique de Kader Youb aujourd'hui avec Jacques Moignard, député maire PS de Montech. Un petit peu de pub et on revient de suite.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
L'association Moissac Culture Vibration présente le 17e Festival de la Voix du 28 au 30 juin. Découvrez les sonorités de toutes les terres. Flânez de jardins en jardins en profitant des spectacles. Dès le 28 juin, du village des voix au jardin du cloître, enchantez vos yeux et vos oreilles avec Noah, Luz Casal. Et prenez le temps pour les spectacles gratuits, Garçon s'il vous plaît et Licia Chéri entre autres. Du 28 au 30 juin à Moissac, 17e Festival de la Voix. Infos et réservations sur moissac-culture.fr.
L'Hôtel des Arts, Hôtel 3 étoiles et son restaurant Les Gourmandises à Nègrepelisse vous accueillent toute l'année dans une ambiance originale et artistique alliant chaleur et modernité. En plein cœur du pays Midi-Quercy, à 10 minutes de Montauban, sur la route des Gorges de l'Aveyron et de sites touristiques d'exception comme Bruniquel ou Saint-Antonin-Nobleval. Notre équipe met tout en œuvre pour que votre séjour rime avec détente, gastronomie et plaisir. Renseignements et réservations sur le site internet hôtel-d-art.eu.
Ne manquez pas l'événement 2013 chez Espace et Atmosphère. Profitez d'offres exceptionnelles, jusqu'à moins 40% sur les plans de travail en céramique, en pierre de lave ou en quartz. De la rénovation au neuf, faites confiance au savoir-faire d'Espace et Atmosphère pour dynamiser votre intérieur de la cuisine au placard, sans oublier la salle de bain. Découvrez le showroom pour tester la résistance des plans de travail et voir l'excellente qualité de finition. Et pourquoi pas innover avec de la céramique ou de la pierre de lave à un prix exceptionnel ? Espace et Atmosphère, 85 avenue Marceau-Hamcher à Montauban. Voir conditions en magasin.
En juin sur CFM Radio, tentez de gagner une magnifique plancha Eno tradition de 60 cm, origine France, en fonte émaillée 3 couches, garantie 10 ans, d'une valeur de près de 500 euros. Offerte par notre partenaire, les Maîtres du Feu à Montauban. Rendez-vous sur cfmradio.fr, postez votre recette barbecue ou plancha et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner la plancha Eno tradition de 60 cm, offerte par les Maîtres du Feu. Préparez l'été en beauté avec CFM Radio et les Maîtres du Feu. Avenue Chamier à Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
La suite du rendez-vous politique de Kader Youb, donc avec. Je vais y arriver avec Jacques Moignard. Les députés français sont très fatigués, dixit le député Alain Touré, qu'on a vu à la télévision presque craquer, hein, et dire voilà, on s'est couché, on a fini, on s'est pas couché, on a fini à 2h30 du matin, on reprend à 9h. Jacques Moignard, est-ce que vous-même êtes arrivé en disant je suis fatigué, je suis un petit peu malade, tout ça. Est-ce que c'est un rythme fatigant d'être député?
Alors écoutez, être député, c'est un rythme assurément fatigant, c'est un rythme de sportif. Je pense que c'est une catégorie de personnages qui doit à tout prix être en pleine forme, sans cela on n'y arrive pas. Alors physiquement bien sûr, mais surtout intellectuellement, c'est-à-dire poursuivre les innombrables projets de loi, textes, donc assortis des amendements à défendre, etc., qui se bousculent chaque minute dans l'hémicycle et en commission.
Et alors justement, il y a la loi sur le cumul des mandats qui arrive juste là et qui devrait être mise en place, dit-on, en 2017 ou en 2014. Vous-même, vous êtes maire de Montech. Qu'est-ce que vous ferez aux prochaines élections? Parce que c'est fatigant d'être maire aussi, donc cumuler les deux. Et aussi président de la communauté.
Président
de la communauté.
Président. Alors vous ferez corriger au service de l'Assemblée nationale qui, sur le site de l'Assemblée nationale, vous déclare comme
président. Oui, je préside la communauté aux communes Garonne-et-Canal. Alors c'est vrai, c'est fatigant. C'est vrai que en théorie, un mandat suffit bien assez. Même, je dirais, ça suffirait pas. Mais bon, suffit bien assez. On peut pas non plus exagérer. La problématique du cumul des mandats, c'est que pour avoir une fonction de député, donc de législateur, il faut connaître le sujet, il faut connaître le terrain, il faut savoir de quoi l'esprit des gens que l'on côtoie tous les jours est fait. Alors moi, j'ai longtemps tergiversé, en pensant qu'effectivement, être uniquement député, c'était bien assez, il y avait bien assez à faire, et encore je vous dis, peut-être ça ne se ferait pas, bon, peu importe. Par contre, la problématique, c'est quand on est là-haut, nous ici en province, on dit là-haut, quand on est donc à Paris, il faut à tout prix, alors je dis à tout prix, alors ça c'est le prix de la santé sûrement et de la forme physique, il faut à tout prix être une référence et un constat par rapport à ce qui se passe chez nous, dans les terrains, dans les communes, au plus près des administrés. Et c'est pour cela, pour ce qui me concerne, moi, je ne suis pas pour le mandat unique. C'est-à-dire, je pense qu'il faut au moins en avoir deux. Alors, un mandat local, bon, je parle d'un député ou d'un parlementaire, un mandat local...
Mais de et maire ou de conseiller municipal, simplement, par exemple?
Alors là aussi, moi, je découvre ça un petit peu, puisque je suis maire depuis 3 ans, pas tout à fait, d'ailleurs 2 ans et demi maintenant. La fonction de maire, telle qu'elle est faite en France depuis 1789, est vraiment une fonction particulière. Être conseiller municipal ou maire, ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que le maire, à tort ou à raison, dans une grande ville et à plus forte raison dans une petite ville, moyenne ou petite ville, est le personnage le plus sollicité parce que le droit lui donne des capacités juridiques, des capacités de décision absolument, j'allais dire extraordinaires, sont pas extraordinaires, absolument fortes.
Donc on aura compris que vous êtes à peu près sur la ligne de Jean-Michel Baillet, notre du Tarn-et-Garonne,
sans doute,
qui est vent debout contre la limitation des...
Il va peut-être plus loin, lui, pour d'autres mandats, j'en sais rien. Moi, je vous dis, au moins deux, quand il s'agit d'un parlementaire, dans le Parlement ou le Sénat, et un ancrage local, au moins deux. Mais avec la fonction de maire, bon, on peut être conseiller municipal, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai, je le dis tout sincèrement, ici, ce soir... Communauté, commune, mairie et député, non, ça c'est pas possible. Il en faut que deux. Voilà, moi je dis parle de deux.
Bon, justement, donc les élections. Hein. Appelez à voter pour trouver un successeur à Jérôme Cahuzac après sa démission dimanche dernier. Les électeurs de la 3e circonscription du Lot-et-Garonne ont porté en tête de la législative partielle les candidats du FN et de l'UMP qui apparaissent comme les grands vainqueurs du scrutin, même si dans le détail ce sont plutôt... l'abstention et la dispersion des voix qui marque ce vote. Vous l'analysez comment, vous, ce résultat, Monsieur Moniard? Est-ce que vous appelleriez, par exemple, à voter, vous, pour le candidat de l'UMP?
Oui, je l'ai déjà fait aux élections présidentielles, je ne sais plus quelle année, je crois, pour Monsieur Chirac. Moi, le choix est simple, entre le Front National et un parti de la République, c'est-à-dire l'UMP en l'occurrence, j'appelle à voter l'UMP.
Non, mais sur le résultat,
il n'a rien d'extraordinaire, je veux dire, bon, je ne sais pas si tout le monde s'attendait à cela, mais on pouvait y penser fortement, puisque, l'image de la gauche, donc des socialistes au travers de M. Cahuzac, a été complètement détériorée, que sur le terrain, je ne connais pas bien l'une ou l'autre, mais je ne connais pas du tout, les candidats, parce qu'il y en avait plusieurs, comme toujours, étaient déjà un peu trop nombreux.
17.
Et que donc, il fallait faire face à cette situation. Il aurait mieux valu, pour ceux qui étaient de la gauche d'ailleurs, sûrement d'avoir un candidat unique. Et de toute façon, tel que le fer était porté à l'endroit des blessures, donc de désagréments comme avait provoqué M. Cahuzac, je vois mal comment l'électorat, quel qu'il soit, aurait pu même basculer sur un être de gauche, même très légitime. Je le vois difficilement. C'est une réaction, à mon avis, humainement, complètement audible à ce moment précis de notre histoire.
Alors, attendez, Monsieur Monnier, François Hollande, que vous avez peut-être vu dimanche sur M6, vous l'avez pas vu.
Non.
En tout cas, sur M6, il a estimé que c'était, je le cite, quand il n'y a plus d'espérance, et à propos de ces élections, qu'il y a des votes extrêmes. Quand il n'y a plus d'espérance, il y a des votes extrêmes. N'est-ce pas, finalement, un aveu d'échec?
Oui, un aveu d'échec.
Parce que là, on parle pas d'abstention.
Non, c'est pas un aveu d'échec, c'est un aveu de situation, je pense que, dans le contexte si particulier de cette élection particulière, avec un personnage quand même haut en couleur qui est M. Cahuzac, avec ce qui est arrivé, je pense que l'électorat de cette circonscription, effectivement, était complètement désemparé, oui, et s'est réfugié dans un vote d'opposition pour bien dicter que effectivement il fallait changer le système et donc prendre des gens sûrement plus honnêtes.
Et Jean-Christophe Cambadélis a lancé un appel aux Verts et aux partis de gauche pour constituer, selon ses termes, une alliance démocratique des forces de gauche et des écologistes. Et c'est lui qui le dit, ça vous fait vous hocher la tête. En tout cas, il dit avant les élections municipales de 2014, dans le cas contraire, il y aura des dizaines de villes neuves sur l'autre en France. Est-ce que c'est votre avis,
oui,
Monsieur Moniard?
Oui, c'est mon avis. C'est mon avis. La gauche, comme la droite d'ailleurs, enfin, les partis politiques en représentation nationale par rapport aux Français doivent s'unir, doivent proposer des programmes intègres, des programmes que j'appellerais normaux, maintenant, pour faire en sorte que l'électorat français ait quelque espoir encore, parce que visiblement, on est tombé bien bas.
À Montauban, par exemple, On ne sait pas où va l'opposition.
Non.
On ne sait pas qui sera investi.
Je ne suis pas plus informé au plus près de tout cela. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs, parce qu'une élection municipale se prépare longtemps à l'avance, tout à fait tranquillement. Bon, on avance des thèses, on critique, on propose. Mmh. Et je crois que nous sommes le 20 juin.
20 juin.
Et à ma connaissance, je n'ai entendu parler, on ne m'indiquait aucune personne, aucun personnage, aucune équipe susceptible de...
Il avait cette déclaration que nous avons soumise avec Rémi à Valérie Rabault, qui était notre invité lors de la dernière émission. Ce texte de Dominique Salomon sur son site qui déclarait que Roland Garrigue avait été investi par le Parti Socialiste pour les municipales de Montauban. Valérie Rabault donc a
démenti.
Démenti. Infirmé, oui, c'est sûr. Oui,
démenti,
c'est vrai.
Ses écrits.
J'ai croisé aussi Roland Garrigue qui a démenti aussi.
Qui a démenti
aussi. Tout à fait, oui.
Valérie Rabault n'exclut pas, elle nous l'a annoncé, n'exclut pas de se présenter elle-même. Ah. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette...
Moi, je pense qu'elle aurait dû ou elle pourrait se présenter. Bon, moi, elle m'a toujours dit, parce que je la connais fort bien, qu'elle était pour le non-cumul des mandats et qu'elle appliquerait la règle, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. C'est un et seul unique mandat, donc elle avait choisi la députation maintenant, bon. Je ne sais pas plus.
Sur ces élections partielles, j'y reste encore. Votre parti, Monsieur Monnier, a perdu deux nouveaux sièges de députés et va en perdre une troisième, vraisemblablement, en tout cas, c'est sûr. On sait qu'elle soit invalidée.
Très vite.
On sait que le gouvernement n'avait pas besoin de ça, alors que l'exécutif doit gérer les turbulences avec les Verts et les communistes. Est-ce que le risque d'une perte de la majorité pour vous est-il réel, Monsieur Monnier?
Non, je ne pense pas.
Vous pensez pas?
Non, je ne crois pas.
On arrive au bout. Je voulais vous souhaiter un bon anniversaire. En fait, c'est pas vraiment à vous, mais à votre page Facebook, parce que j'ai découvert que vous l'aviez ouverte le 17 juin 2012 que depuis vous étiez actif quand même.
Vous avez
un Facebook sur lequel vous communiquez.
Dans la mesure du possible. Hein, oui. Dans la mesure du possible. Voilà, on a fait plus que ça. Mais
C'est depuis que vous êtes député, en fait.
Ah oui, tout à fait.
Ça a été l'outil.
J'étais
que vous
pas
avez
proche
choisi.
de ces moyens. Ouais.
Mais c'est vous vraiment qui le faites ou vous avez quelqu'un de votre cabinet qui le fait pour vous?
Je le fais et quelqu'un le fait avec moi parce que je sais pas bien pianoter, mais je participe abondamment.
Bon, écoutez, Monsieur Monnier, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera donc sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, peut-être. On vous retrouvera en tout cas, ce qui est sûr, lors des prochaines municipales de 2014. Prochain invité, jeudi 4 juillet, ce sera Brigitte Barège qui sera à votre place, Monsieur Monnier.
Très bien.
À 17h. Merci à tous.
Merci d'être venu sur CFM Radio.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci.
Merci Kader Youb.
Merci Rémi. Merci Aurélien.
Il est 17h30.
CFM. CFM.
CFM. Les infos.
Bonsoir à tous. L'état de catastrophe naturelle reconnu avant la fin de la semaine prochaine, c'est Manuel Valls qui